une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Salut Bissan Mahoï, il est beau notre petit générique. Ce matin, sur notre belle radio flamboyante, j'ai fait une place à un grand sportif, une star de la petite reine. Pour lui, le sport a rythmé sa vie. C'est aussi grâce au sport que nous nous sommes rencontrés, mais ça on l'expliquera un peu tout à l'heure. C'est notre Denis Schmidt de Didenheim, cycliste professionnel, sprinter. On expliquera tout à l'heure ce que veut dire sprinter. Un homme qu'on aime compter parmi ses amis, en plus fidèle en amitié, il a l'œil malicieux, il pétille de bonheur, il a une voix qui porte et rapporte. Alors mon Denis, je suis très heureux de papoter avec toi ce matin devant le micro. Vigates, comment ça va ?
Ça va bien Dédé, ça va très bien.
Tu es en forme ? T'as l'air en forme ?
Mais très bien, très bien. En plus je suis à Strasbourg, donc pour moi c'est toujours un événement.
Qu'est-ce qui fait avancer ce Denis Schmidt dans... Qu'est-ce qui te fait avancer dans ton monde sportif ? Sans le sport, tu ne serais certainement pas le même homme.
Ah ben évidemment, le sport m'a tout apporté, le cyclisme en particulier, parce que ben, ça m'a ouvert les portes professionnelles tout au départ de ma petite carrière professionnelle. Ensuite, j'ai connu mes amis les plus proches dans le vélo et voilà.
On va en parler un peu plus tard de tout ça, mais comment ça a commencé ? Est-ce que ton père t'a acheté un vélo avec des petites roues ? C'est lui qui t'a donné l'envie de pédaler ?
Alors mon premier vélo, c'est pas mon papa qui me l'a acheté, c'est mon parrain, et je m'en souviens très bien, c'était un vélo bleu avec des gros pneus comme ça, tout petits, que j'ai d'ailleurs conservé un petit moment et que j'ai donné après à une de mes cousines, il me semble, pour un de ses gamins, mais je me souviens plus à qui.
Il avait les petits trous ?
Il avait évidemment les petits trous, ben oui.
Est-ce que tu es tombé sur le nez avec
ce petit vélo ? Et on m'a laissé les petits trous jusqu'à l'âge de 13 ans.
Alors dis-moi Denis, je crois que ton père a eu un rôle très important dans ta vie, c'est vrai, nos pères sont des héros, on peut le dire, hein.
Évidemment, mon père m'a, dans le cyclisme en tout cas, m'a tout appris. Et puis, en dehors du cyclisme, certainement aussi. Il était un peu rigoureux, certes. Mais je pense que vu le caractère difficile que j'avais...
Il faut être rigoureux, je pense.
Le petit schnappant que j'étais, voilà, je pense qu'il fallait être rigoureux.
Et alors, qu'est-ce qui t'a apporté ton père dans le vélo ? Est-ce qu'il t'a tout appris ?
Évidemment, étant lui-même cycliste,
ton père a fait du vélo ?
Oui, évidemment, mon papa a fait du vélo
Les années 50. Je crois, hein.
Non, un très bon grimpeur.
Grimpeur.
Un très bon grimpeur, ce que moi je n'étais pas, mais lui n'était pas sprinter, ce que moi j'étais. Donc en fait, j'ai dû prendre le sprint de ma maman, j'en sais rien. Et naturellement, mon père dans le cyclisme m'a tout appris à mes débuts, évidemment.
Qu'est-ce qui t'a appris, par exemple, savoir rouler quand tu fais une compétition
ou... Ah ben, quand on commence à l'âge de 14 ans, la compétition cycliste, on a vu ça à la télévision. Alors, mon coureur préféré à l'époque, c'était Louis Ocagna, qui avait gagné le Tour de France dans les années 70. Merck, j'aimais pas trop, puisqu'il gagnait tout. Et c'est vrai qu'on n'aime pas trop, enfin, je sais pas, voilà, les gens qui gagnent trop. Donc, j'avais un fait pour Louis Ocagna. Et un jour, à 13 ans, devant le Tour de France, en 74, j'ai dit à mon père, bah écoute, moi, je veux prendre une licence l'année prochaine, puisque j'ai 14 ans et que je peux courir à partir des minimes, j'aimerais prendre une licence. Et là, mon père m'a dit, écoute, je te préviens, on ne t'emmènera pas tous les dimanches pour aller traîner en queue de peloton. Si je t'emmène, c'est pour
gagner.
Pas forcément gagner, mais pour être sérieux, t'entraîner sérieusement, avoir une rigueur dans le sport. Voilà, c'est à ces conditions-là que ça marchera.
Mais le vélo, en fait, il faut juste pédaler, c'est tout. Il y a autre chose.
Évidemment que non. Je pense qu'effectivement, les personnes qui ne connaissent pas trop le vélo, quand ils voient le Tour de France, ils doivent se dire, ben, il suffit de se mettre devant, appuyer comme une brute, et c'est le plus fort qui gagne. Évidemment que non. C'est pour cette raison que j'ai gagné beaucoup de courses, parce que le vélo réserve...
Parce que tu es malin.
Voilà, exactement. J'ai rarement été le plus fort dans le peloton, mais j'ai souvent été le plus malin. Et le cyclisme permet justement cette chose, c'est-à-dire que même si on n'est pas le meilleur, contrairement par exemple à un marathon où c'est tout le temps le meilleur qui gagne, parce qu'il suffit de courir vite et il n'y a aucune stratégie ou très peu, dans le vélo c'est très très complexe et souvent c'est le plus malin qui gagne, surtout quand on est très rapide aussi.
Ouais, mais des fois c'est juste un centième de seconde, un boyau d'avance.
Oui,
à peine.
Oui, certes, mais ce boyau d'avance, ben c'est un effort que t'as pas fait 3 km avant, c'est un effort que t'as économisé 10 km avant parce que ben tu t'es protégé un peu mieux que ton collègue qui lui aussi est sprinter, et à la sortie il y a ce petit centimètre ou 2 centimètres ou 1 mètre qui fait que tu t'es un peu plus économisé, t'as été un peu plus malin, t'as mis la main à la poche quand il fallait, laissé prendre ton collègue le relais, le vent pendant 30-40 mètres. Et ça, ça suffit pour gagner une course ou la perdre. Donc c'est très complexe.
Alors je sais aussi, parce que tu m'as souvent raconté cette petite anecdote avec ton papa, qui était quelqu'un, qui a, c'est vrai, un père, c'est quelqu'un d'important dans sa, propre, dans sa vie. Un jour, tu es descendu à la cave et tu as cassé un cadenas. Ton père avait cadenassé son vélo, tu n'avais pas le droit d'y toucher et tu l'as quand même fait.
Évidemment, donc c'était le vélo de piste de mon papa qui... le vélo de piste, il faut savoir que c'est un vélo à pignon fixe qu'on ne peut pas normalement utiliser sur la route. Parce qu'il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de dérailleur, il n'y a pas de frein. Donc on l'utilise uniquement sur un vélodrome. Et deuxième chose, sur ce vélo, il y avait des boyaux en soie. C'est-à-dire
ça,
des
ça
pneus.
Veut dire quoi,
les,
ça veut dire quoi?
Les boyaux, c'est des pneus en soie.
Les pneus.
Alors les pneus en soie, de la soie, hein, c'est des boyaux, on appelle ça des boyaux quand c'est très fin et quand on fait de la compétition.
Ça veut dire que tu peux rouler que sur des parquets.
Que
quoi.
Sur des parquets ou sur du béton, mais vraiment très lisse parce que le moindre gravillon... Eh ben, déchire ce boyau en bois. Donc, je n'avais absolument pas le droit de le prendre. Et naturellement, ce qui est interdit, je veux dire, je me disais, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que je prenne ce vélo? Il me l'avait expliqué, mais tout ce qui était interdit, j'adorais.
Tu étais déjà un sale gosse à l'époque.
Évidemment. Donc, un jour, quand j'ai eu l'âge de pouvoir monter sur un vélo et de l'enfourcher, eh ben, je suis allé avec une pince coupante, je l'ai coupé à l'endroit où il pouvait pas le voir. J'ai enlevé le cadenas, je suis sorti sur la route avec ce vélo que j'ai pris naturellement avec précaution. J'ai surtout pas roulé aux endroits où il y avait des gravillons et j'ai fait quelques centaines de mètres avec et je suis revenu et je me suis dit, mais un jour, il faut que je fasse de la piste, il faut que j'aille sur les vélodromes d'Europe. C'est ce qui est d'ailleurs arrivé plus tard puisque j'ai roulé sur tous les vélodromes d'Europe, à Francfort, à Munich, à Gand, à Bébé, enfin partout.
Oui, je sais bien. Et Denis, qu'est-ce qu'il a dit ton père quand il a revu son vélo?
Il l'a su des années plus tard, quand je suis devenu après champion d'Alsace sur ce... D'ailleurs, mon premier titre de champion d'Alsace, je l'ai gagné avec ce vélo, qui était un vélo qui datait de 20-30 ans avant. J'avais le vélo, un vieux clou, mais ce qui ne m'a pas empêché de gagner. Et quand j'ai gagné plusieurs titres, j'ai eu les moyens après, parce que je gagnais un peu d'argent, un tout petit peu, de m'acheter un autre vélo. Et puis voilà.
C'est pas le vélo qui fait l'homme.
Mais évidemment que non, parce qu'on a beau avoir un beau vélo, si vous n'avez rien, dans les jambes, le vélo ne sert à rien. Et même avec un vélo de 6,5 kg comme ils ont dans le Tour de France, eh bien, il faut pédaler, ça fait très mal le vélo.
Et ça, je sais bien. Denis, dis-moi voir un petit peu, je sais que tu as rencontré des grands professionnels du vélo avec qui tu t'es entraîné et t'as couru. Par exemple, des grands noms comme Fignon, Lemon, Hino, c'était des gens avec qui tu as fait du vélo en fait.
Évidemment, alors Hino pas parce qu'Hino est bien plus âgé que moi, mais en fait quand j'avais 18 ans, j'avais quelques résultats en junior et là le directeur sport, le patron de la meilleure équipe française qui était l'AC Boulogne-Billancourt, l'ACBB, à l'époque c'était le club de Bernard Thévenet, de Jacques Anquetil, etc., tous ces champions passés par l'ACBB, Stéphane Roche qui a gagné plusieurs Tours de France, enfin un Tour de France, champion du monde et vainqueur du Tour d'Italie la même année, tous ces gens-là étaient dans ce club-là et ce monsieur est venu me voir en junior à l'âge de 18 ans, il m'a dit l'année prochaine j'aimerais t'enrôler dans mon équipe à Paris, il faut que tu viennes parce que tu as toutes tes chances et j'y suis allé, c'est là que j'ai effectivement croisé tous ces gens-là, Laurent Fignon qui était un copain avec qui je m'entraînais quasiment deux
qui
fois par semaine,
commentateur à France Télévisions,
ensuite que j'ai retrouvé effectivement à France Télévisions puisque avec toi-même nous avons fait le tour plusieurs fois sur France Télévisions et voilà quoi, donc également Vincent Barthaud, également Greg Lemon qui avait fait une pige à la CBB,
des grands noms,
des grands noms.
Après Denis, j'ai envie de te poser une autre petite question. Après ta carrière de coureur, tu es devenu chauffeur assistant sur le Tour de France. Et tu en as fait un paquet, on en a fait un peu. Qu'est-ce que c'est exactement un chauffeur assistant sur le Tour de France ?
Alors j'étais autant effectivement assistant que chauffeur, parce que chauffeur, bon voilà, tout le monde est... Enfin, tout le monde, non.
Non, tout le monde ne sait pas rouler sur le Tour de France.
Voilà,
attention Denis,
oui, je sais
c'est
bien.
Pas dégradant hein, ce
non,
que
non,
je te
non,
dis,
non,
au
non,
contraire.
Non, 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 non.
Tu es une grande star, hein,
non,
le sais.
Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais j'étais effectivement, à mes tout débuts, quand on a fait le Tour ensemble...
Nous deux, on a fait un Tour ensemble.
Plusieurs Tours de France ensemble.
Tu vas pas te raconter, sinon je te raconte des anecdotes de d'Épernay.
C'est d'ailleurs
avec la baronne.
C'est d'ailleurs, c'est ce que je disais. Le cyclisme, je lui dois une grosse partie de ce que je suis actuellement, surtout au niveau de mes amis et toi entre autres, que j'ai connu sur le Tour de France en 2002. Et voilà.
Et chauffeur assistant, c'est quoi?
Alors je reviens effectivement à ce poste qui, en fait, alors il s'agit de materner le plus possible, de materner, c'est pas péjoratif.
Hein. Tu veux dire que tu m'as materné, tu m'as
biberonné? Non, d'être sympa avec le journaliste, de le mettre dans de bonnes conditions, de ne pas le stresser avant même qu'il arrive sur le plateau, de l'emmener dans des conditions, voilà, pour qu'il arrive sur le plateau de Gérard Holtz à l'époque, toi, ou Henri Sagné, qui effectivement, pour qui tu travaillais, il faut que tu arrives sur le plateau détendu. Donc tu ne peux pas stresser sur la route une heure avant.
Denis, ce que tu oublies de dire, c'est qu'on roulait en fait, on allait d'étape en étape.
Oui.
Tu roulais en fait.
Ah, je sais bien.
C'était un mois, c'était 5000 km.
C'était 5000 km, oui, ouais. Effectivement, un peu plus de 5000, puisque ouais. Le Tour de France, rien que le Tour de France, les coureurs font 4000, donc nous on en faisait toujours
2000 de plus.
2000 de plus, donc on tournait aux alentours de 6000 km par Tour de France. Et donc mettre le journaliste dans les meilleures conditions possibles, et ensuite de lui apporter en fait mon expérience dans le cyclisme, c'est-à-dire lui emmener les petites choses que peut-être un journaliste non spécialiste du vélo ne connaît pas forcément.
Ben moi j'y connaissais pas grand-chose. Tu m'as tout appris.
Tout appris parce que tu faisais quand même un peu de vélo, donc tu savais ce que c'était un peu et t'avais côtoyé déjà des grands champions comme Cipollini qui d'ailleurs t'avait gentiment signé un maillot.
J'avais toute la tenue. Et, hein,
voilà, qui t'avait donné parce qu'il t'appréciait beaucoup.
Le beau d'ailleurs, gosse, hein, c'est un
voilà,
bel
exactement.
Homme. Maintenant acteur, je crois. Hein.
Oui, en Italie, oui, ouais, tout ouais, à fait. Ouais, ouais. Et donc voilà, donc c'est mettre le journaliste dans les meilleures conditions possibles et lui apporter mon expérience d'ancien cycliste. Voilà.
Et après, quand tu parles du Tour de France, cette année, le boss Christian Prudhomme t'a donné une médaille. Tu as fait 21 Tours de France, c'est énorme ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as eu comme médaille?
Alors j'ai... C'était une médaille en chocolat. Donc, non, mais Christian, naturellement, est extraordinaire. Et Christian...
C'est le patron du Tour de France.
Christian Prudhomme, naturellement, est le directeur du Tour de France. Quelqu'un de professionnel, de gentil, de sympathique, que tu as côtoyé à France Télévisions également.
Je l'ai connu parce que c'était mon patron de Stade 2 à l'époque.
Voilà.
Et on a fait des Dakar ensemble et des Tours de France. Il est très, très rigoureux. Il est alsacien de souche. Et les Alsaciens, tu connais, hein, ils sont... pointilleux comme nous deux. Hein.
Exactement, hein. Est né dans ta ville de Schiltigheim, en plus,
ouais,
Christian
ouais,
Prudhomme
ouais,
est né
ouais,
à Schiltigheim.
Ouais, ouais.
Et voilà, donc c'est Christian qui a tenu à me remettre ce trophée pour mes 20 Tours de France, mais comme l'année dernière, nous étions en Covid, avec des restrictions quand même très strictes, il n'a pas pu me le remettre, et il m'a le remis cette année au lieu de l'année dernière. Donc voilà, 21 Tours de France à mon actif, ce que je ne pensais jamais parce que on va peut-être y revenir, mais lors de mon premier Tour de France, d'ailleurs, tu étais présent et quand je t'ai entendu parler le français, je me suis dit, tiens, il a un petit accent alsacien, ce monsieur,
je vais aller
le voir.
Je crois que c'était à Metz. Hein,
Metz, exactement. Et là, je t'ai dit, tenez, vous êtes alsacien. Et là, tu m'as répondu, bah oui, je suis de Strasbourg. Je dis, bah moi, je suis de Mulhouse et on ne s'est plus jamais quitté.
Ouais,
et j'avais eu un petit souci avec ma journaliste deux jours auparavant au Luxembourg, parce que le départ s'est fait au Luxembourg en 2002. Et tu m'avais dit d'être patient avec cette fille parce que tu avais fait plusieurs Dakar avec elle et que c'était une fille chouette. Seulement, elle était un peu stressée parce que c'était son premier Tour de France
ouais.
Et qu'elle déchargeait un peu son stress sur moi. Et je ne supportais pas au bout de 3 jours. J'avais envie de quitter le Tour.
Ouais.
Si je ne t'avais pas rencontré, je pense que le Tour se serait arrêté pour moi en 2002 au bout de 3 jours et plus jamais j'aurais fait le Tour de France.
Après, j'étais ton psychologue et je t'ai dit, Denis, prends sur toi
oui.
Et continue. C'est tellement beau le Tour, toi qui as fait du vélo toute ta vie et depuis, il en a fait 20. Tiens, mais tu n'es pas que le star dans le Tour de France. Tu as aussi des amis stars aujourd'hui. Bah, je pense à Jean-Paul Belmondo, Paul le fils, ouais. Et on va juste écouter un bras de musique et il est aussi star de cette personne. On va couper Fabien derrière son petit aquarium. Fabien, c'est le technicien son, t'as bien vu. Alors dis-moi, qui c'est Hugo Frey? Comment tu l'as rencontré?
Alors Hugo Frey, c'est quelque chose d'assez inimaginable, enfin, quelque chose de surprenant en fait. Ça s'est passé sur un événement pas très joyeux, puisque c'était ni plus ni moins que l'enterrement du papa de Paul, hein, Jean-Paul Belmondo. Évidemment, donc au mois de septembre l'année
dernière,
effectivement, ça fait déjà presque un an. Et en fait, nous étions très peu nombreux à l'église de Saint-Germain-des-Prés, en face des deux magots, et à ce moment-là...
Très peu nombreux, vous dites que vous étiez très bon nombreux, mais on t'a vu quand même sur BFM, t'a vu sur toutes les images.
Oui, mais ça, c'est parce que j'étais avec Hugues, donc voilà, ils ont, c'est pas moi, hein, c'est...
Denis Schmitt
c'est
existe,
toi un peu quand même. Denis Schmitt n'existe pas à Paris, mais alors du tout, je suis connu dans ma rue, c'est-à-dire entre le voisin de droite et le voisin de gauche.
Ça m'étonnerait.
Donc voilà. Non. Et après, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, des stars. Je dirais plutôt des gens connus. Parce que ni Paul Belmondo, ni Hugues Auffray, ni G.G. Holtz, ni ces gens-là ne voudraient qu'on les appelle stars. Parce que c'est des gens que tu connais également, Gérard Holtz, qui sont bien trop modestes.
Ouais. Ce sont quand même des gens qui sont dans la lumière.
Évidemment.
Mais toi, tu aimes la lumière aussi, Denis.
Oui, non. Après, je dirais que tu sais, quand tu es ami avec Paul Belmondo, c'est pas le fruit du hasard. Parce que, je veux dire, si Paul Belmondo était quelqu'un de détestable, que ce soit Paul Belmondo ou machin, c'est pas ça qui compte. Paul est quelqu'un d'adorable, c'est pour ça que c'est devenu mon ami, et voilà.
Mais Denis, ce qu'il y a aussi, moi je dis souvent, tu as un talent extraordinaire, tu te sens à l'aise partout. Moi je dis souvent, dans une autre vie, je voudrais être Denis Schmitt.
Oui, mais Denis Schmitt a également ses emmerdes, comme tout le monde. Le matin, ben, il se lève, il est pas toujours... Voilà.
Journal d'Alsace tous
oui,
les matins.
Oui, tous les matins, je lis le journal d'Alsace, évidemment. Mais Denis Schmitt a les mêmes soucis que tout le monde. Hein, c'est pas... Et en fait, j'ai peut-être un... En fait, les gens qui ne me connaissent pas vraiment, toi tu me connais vraiment et on se confie, donc forcément tu connais ma vie, mais les gens qui ne me connaissent pas se disent, ce gars-là n'a jamais de soucis. C'est pas possible, il a toujours la banane, il est toujours bien du matin au soir. Mais non, j'ai des doutes, j'ai des moments où je suis pas bien le matin quand je me lève, parce qu'on se pose des questions, parce que la vie, j'avance en âge, la mort approche, enfin voilà.
Ouais, t'en es loin.
Non, mais je sais bien, mais tout ça... Alors, ce qui m'effraie plus que ma mort à moi, enfin qui m'effraie... qui me chagrine, ben mort à moi, je c'est pas important du tout pour moi, parce que mourir demain, ça ne me pose aucun problème. C'est la mort de mes amis, les gens que j'aime. Ça m'angoisse un peu de me dire qu'un jour je vais les perdre et je vais peut-être rester seul. Et ça m'ennuierait profondément.
Tu seras jamais seul, mon Denis. Tu seras jamais seul.
Non, seul, je veux dire dans le sens où les amis les uns après les autres vont disparaître et voilà quoi.
On va parler de choses un peu plus joyeuses.
Oui,
Denis. Je sais aussi que de temps en temps, tu es une sorte de psy, parce que virant que tout le monde connaît, quand il va pas bien, pourtant il a tout ce qu'il veut, ce monsieur, pour être heureux, il t'appelle de temps en temps.
Pas Richard Virenque, Thierry Marie surtout, Virenque aussi un peu, ouais. Mais Richard, bon,
il est moins connu que Virenque quand même, Richard.
Richard Virenque, tu parles ?
Non,
Thierry Marie. Thierry Marie a quand même gagné plusieurs fois le maillot jaune dans le Tour de France. Il a gagné plusieurs prologues, dont une fois devant Bernard Hinault. Et c'était certainement à son époque, dans les années 90, un des meilleurs, sinon le meilleur rouleur au monde, contre la montre, hein, je parle. Et voilà, donc c'est vrai qu'on s'appelle parce qu'on est amis et que forcément, entre amis, ben, on se raconte les choses qui vont, mais également les choses qui ne vont pas.
Qu'est-ce qui ne va pas chez Virenque, par exemple ?
Oh, ben, parce que, ben, il a eu, comme tout le monde, un divorce difficile. Il a eu une chute qui a failli le tuer. Il est tombé gravement dans une descente de col alors qu'il faisait plus de vélo, hein. C'était juste pour son plaisir. Malheureusement, il a pris un ralentisseur, le cadre a cassé ou la roue avant est partie et il s'est fracassé la tête par terre et ils l'ont retrouvé. Et il m'a même raconté qu'à un moment donné, il passe la main sur son front et il se dit « Aïe, j'ai des gravillons ». En fait, c'était les os de son crâne.
Ah, quelle horreur.
Donc tu vois à quel point il était
blessé.
Il a une coque en carbone. Enfin, ouais, voilà. Et après, un divorce difficile. Et voilà. Donc, c'est pas simple, même pour Richard Virenque, qui pourtant était tout en haut. Ces gens-là ont les mêmes soucis que nous, de toute façon. On est des êtres humains. Et voilà.
Tu es là, leur écoute, tu leur parles, tu leur donnes des conseils.
Et
dis-moi, aujourd'hui, je sais que tu fais toujours du sport, même à Didenheim, tu cours dans la forêt.
Alors, pour en revenir, Dédé, on n'avait pas terminé, si je peux me permettre, comment j'ai rencontré Hugues. Donc tout simplement, j'étais attablé, parce que j'étais un peu en avance avec Pascal Chanteur, mon ami, et Paul nous avait demandé de venir à l'église, et non pas la veille, comment s'appelle l'endroit où où il y a eu la levée du cercueil, d'ailleurs, qui était émouvant, j'ai pleuré. Les Invalides,
la cour
des Invalides.
Qu'on a tous vu à la télé.
Voilà, exactement. Donc là, Paul m'a dit, écoute, ne viens pas aux Invalides parce que tu seras noyé dans la foule, on se verra pas. Je préférais que tu viennes à l'église, comme ça on aura le temps de discuter un peu et on sera très peu nombreux. Et c'est vrai qu'on était peut-être 60 personnes, pas plus. Et voilà, c'était beaucoup plus intime. J'ai pu parler avec Paul après l'enterrement, voilà, le consoler, enfin voilà. Et j'ai rencontré
Hugo Frey
le matin même, parce que j'étais un peu en avance, donc je suis allé boire un verre aux deux magots, qui étaient juste en face de l'église. Et là, arrive Hugo Frey, il s'assied à côté de moi, il reconnaît Pascal Chanteur et il commence à discuter avec lui.
Parce qu'il est passionné de vélo.
Il a dit, mais je vous reconnais, vous êtes Pascal Chanteur, j'ai fait le Tour de France avec Gérard Rose en 98, j'étais dans sa voiture et il y avait l'affaire Festina et vous étiez un peu le meneur des coureurs, vous étiez le représentant des coureurs et je vous reconnais et tout. Ça vous gêne pas que je m'assieds à côté de vous avec ma compagne?
Très humble, quoi.
Très humble. Alors on lui a dit, mais non, approchez-vous. Alors d'abord, il était à côté de nous et puis à un moment donné, il s'est mis à notre table et il a dit, on se quitte pas, hein, parce que j'ai envie de vous inviter à manger après l'office. Il nous a emmené à la brasserie Lip qui est juste en face, boulevard Saint-Germain, et on a sympathisé. Puis depuis, on s'appelle une fois tous les... Il m'a encore appelé là avant-hier pour me dire qu'il avait un petit souci de santé, rien de grave. Hein,
il était assez âgé, le monsieur.
93 ans, hein, il a 93 ans, avec une culture. Il m'a parlé de physique quantique, il m'a parlé de fission nucléaire, il m'a parlé
Mais ouais, c'est un grand monsieur.
Hein. Alors donc, il nous a invités effectivement à la brasserie Lip et on devait rester une heure avec lui parce qu'il a dit, j'ai des choses à faire après parce que je suis attendu, j'ai des radios, des télévisions. Et ben on est resté jusqu'à 18h, il a décommandé ces deux radios, il a dit on les fera plus tard. Il a dit ces gars-là sont tellement intéressants et on est devenus hyper potes et il était de passage en Alsace il y a quelques semaines de cela.
Pour des concerts. Hein.
Pour des concerts, il était à Molsheim
et à
Célesta et puis il m'a dit viens à Célesta, il faut que tu assistes à un de mes concerts.
C'est sympa,
au mois d'octobre parce que je le convie à la présentation des équipes et on l'emmène sur le Tour de France. Enfin, il est hyper content.
Ouais, c'est chouette. Mm. Et c'est un monsieur, ses chansons, c'est des gamins qui les chantent à l'école maternelle.
Évidemment, Hugo Frey, qui ne connaît pas Hugo Frey, quoi. Ouais, c'est quelqu'un d'extra. Pareil, c'est quelqu'un qui est charmant, qui est humble, qui est. Enfin, voilà.
On va demander à Fabien d'écouter, de reposer un peu les oreilles. Fabien, mets-nous un peu de musique, là. Une musique qui va lui plaire à notre Denis, à notre invité.
Femme, je vous aime.
Fabien, on va couper parce qu'on n'arrête pas de rire dans le studio. Écoute, Denis, alors c'est quoi
Il est fantastique, l'ingénieur du son. Là. Il est vraiment extra.
Fabien, c'est pas n'importe
Merci
qui.
Merci Fabien. Il est vraiment.
Et en fait, pourquoi on a mis cette musique? Parce que c'est vrai que tu aimes bien aussi la compagnie féminine. Je me souviens sur par exemple un Tour de France quand je devais travailler le soir au montage, tu allais voir la baronne de Crayères qui vendait du champagne, des magnums à Rigercheer et en fait elle venait même te voir en jet privé au moment à Bordeaux. Bon, on va pas tout raconter,
on va pas rentrer dans les détails, mais il est vrai que c'est des moments moi je pense qu'il faut rester naturel et puis j'ai peut-être ce côté effectivement naturel où les gens viennent vers moi tout à fait naturellement. Et j'avais également l'avantage de te représenter parce que initialement c'est toi qui étais invité, mon Dédé, à cette grande soirée à Épernay où tu devais représenter France Télévisions et tu ne pouvais pas parce qu'il fallait finir absolument l'émission pour Henri Sagnier, Gérard Rolls le lendemain. T'étais au montage, t'avais encore de à travailler jusqu'à 23h au minuit, ce qui était pas rare, je dirais que même c'était ton quotidien. Et tu m'as dit écoute, représente-moi dans cette grande soirée à Épernay parce qu'il y a les députés du coin.
Ouais, on va pas parler des hommes politiques.
Voilà. Non, il y avait tout le monde, tout le gratin, et c'est là où j'ai rencontré effectivement cette dame qui est venue me voir.
Charmante,
qui était madame Beaumont de Crayères, des champagnes Beaumont de Crayères, donc l'héritier des champagnes, et qui livrait effectivement son champagne à l'hôtel Savoie à Londres, qui était le fournisseur officiel. Fournisseur officiel de l'équipe de France au JO d'Athènes. D'ailleurs, elle m'avait demandé de venir à Athènes avec son jet privé. J'ai refusé parce que.
Ça vient d'empêchement, je crois.
Ha ha ha! je n'ai pas pu y aller, je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais c'était une charmante dame et voilà. Qui a sympathisé avec moi et j'ai sympathisé avec elle. Et...
Oui, mais c'est vrai qu'on buvait son champagne.
Et on buvait son champagne sur le Tour de France. D'ailleurs, elle nous envoyait des magnums pendant les trois semaines du Tour. On avait de temps en temps à l'hôtel.
T'en as encore dans la cave.
Et j'en ai encore une dans la cave, un gros magnum Beaumont de Crayères. Et c'était du très bon champagne puisqu'elle livrait également quelques gens connus aux États-Unis, dont Richard Gere. Un jour, elle a un appel alors que je suis chez elle. On était à table et elle me dit « Ah, Richard !» Et elle commence à parler en anglais. Et je lui dis « Richard, mais Richard... » Et à un moment donné, il me semblait qu'elle parlait un peu mon petit anglais, mes petites connaissances en anglais. J'avais pu comprendre qu'elle parlait un peu de cinéma et de machin. Et elle citait un autre acteur connu. Et je lui ai quand même dit « Mais c'était qui ?» Elle me dit « Bah, c'est Richard Gere. » Mais pourquoi tu as Richard Gere? Elle me dit parce que je livre le champagne à Richard Gere, à machin, à un tel, à un tel.
Ouais, donc, c'est un autre monde. Hein,
c'était un autre monde, voilà. Voilà, enfin bon.
Et Denis, alors on revient un petit peu au sport. C'est vrai qu'on peut en parler pendant des heures. On a passé des moments extraordinaires sur les Tours de France ensemble. Qu'est-ce qu'on s'amusait, qu'est-ce qu'on rigolait tous les deux dans notre voiture de tournage et sur les tournages. On était même jalousés. Hein. Les gens nous mettaient des pots de banane par terre pour qu'on se casse un peu le bout du nez. Mais bon, c'est comme ça. Quoi. On a cassé des super moments. Maintenant, Denis, j'aimerais te demander, je sais que tu as fait beaucoup, beaucoup de choses et tu fais toujours un peu de sport. Tu cours toujours un peu, tu fais de la course à pied pour toi. Tu fais du vélo, tu montes un peu les petites bosses là du Saint-Odile ou alors tu vas plutôt dans la vallée de Munster.
Exactement. Alors pendant le Covid là j'avais un coup de moins bien, un peu moins motivé et puis on nous empêchait effectivement de faire ce qu'on voulait. Donc forcément ça m'a un peu et puis je suis sorti un peu des rails, c'est-à-dire que je faisais un peu moins de footing, un peu moins de sport et j'ai repris à Noël. C'était un peu le déclic. Je me suis dit tiens je vais me remettre au footing et là depuis le Tour j'en fais moins parce que sur le Tour de France c'est pas simple, tu sais ce que c'est, on a des horaires de dingue. Ouais. Donc mais là je vais m'y remettre là au mois de septembre, je vais refaire en moyenne je fais 2-3 petits footings de 3 quarts d'heure par semaine. Là encore jusqu'au mois de septembre octobre, je vais encore refaire un peu de vélo parce que le temps nous le permet, mais après au mois de novembre, début novembre, je remets le vélo au clou et puis terminé.
Quand on a fait du sport de haut niveau comme toi, on peut pas se passer de sport.
Oui, alors le on peut pas se passer de sport parce que alors ça dépend qui, parce que t'as des anciens champions qui sont devenus qui ont pris beaucoup beaucoup de poids et qui ne veulent
tu parlais de Merckx tout à l'heure.
Merckx,
il est énorme.
Oui,
c'est Obélix quoi. Mais pardon.
Peut-être pas, mais c'est vrai que. Mais je pense qu'à un moment donné, ils ont tellement donné que ils veulent plus entendre parler de rigueur, ils veulent plus entendre parler d'entraînement. Alors ils font du sport pour leur plaisir, mais faut surtout plus leur parler d'obligation d'aller faire du vélo parce qu'ils sont obligés, ce qu'ils ont fait dans toute leur carrière parce que c'était leur métier et souvent pas par plaisir, mais parce qu'il fallait aller gagner sa croûte. Et voilà quoi.
Mais c'est vrai, il n'y a pas mieux que de faire un petit footing, après prendre une bonne douche et d'être à l'aise et de commencer ta belle journée. C'est comment une journée type maintenant de Denis Schmidt ?
Alors là, en ce moment, j'ai un peu plus de travail parce que j'ai un projet immobilier à terminer. Mais je dirais que mes journées types depuis 20 ans, c'est pas non plus je casse pas trois pattes à un canard. Alors le matin, je vais faire mon petit footing. Après, j'ai toujours mes rendez-vous avec mes locataires. Il y a un locataire qui m'appelle parce qu'il y a un joint de robinet à changer. Une autre qui m'appelle.
Ça veut dire que tu mets le bleu de travail et tu.
Oui, évidemment, parce que j'ai que ça à faire, donc je vais pas le donner à une agence immobilière. Donc voilà, hein, je vis de ça depuis quelques années. Et puis de temps en temps, je fais une promotion immobilière et j'ai également mes activités avec France Télévisions sur le Tour de France et sur Paris-Roubaix et puis voilà quoi. Mais ça me prend très peu de temps, ça me prend un mois et demi, deux mois dans l'année.
C'est quand même des moments extraordinaires.
Ouais. Et puis après j'ai la chance aussi de bien connaître maintenant, enfin c'est devenu un ami, Thomas Veuclair qui lui est sélectionneur de l'équipe de France et qui de temps en temps, par exemple là en Australie, je pense que peut-être la semaine, dans deux semaines, je pars pour l'Australie parce que il m'a demandé de venir avec lui.
Génial. Voilà, 24 heures d'avion.
Ouais, il m'a dit profites-en, viens en Australie, on sera l'équipe de France, on sera très peu nombreux. Donc il y aura le président de la Fédé, Michel Callot, il y aura lui, il y aura le DTN, il y aura les coureurs et une ou deux personnes quoi. Donc on sera vraiment en comité très restreint en Australie et je pense que ça va.
T'imagines ce que le vélo t'a amené dans ta vie ?
Évidemment, le vélo m'a tout apporté, mais vraiment tout. Professionnellement, les amis, les contacts, enfin le vélo m'a tout apporté, parce que si je connais aussi bien, enfin si je suis devenu ami avec Paul Belmondo, c'est parce que c'est un passionné de vélo. Hugo Frey, c'est un passionné de vélo. Jean-Pierre Bernès, que j'ai emmené sur le dernier Tour de France, l'agent des joueurs professionnels du foot, c'est le numéro un français et le cinquième au monde, il est passionné de vélo. Il m'a remercié, mais comme il m'a dit, moi, une étape sur le Tour de France, Denis, c'est comme si tu m'offrais le plus beau des cadeaux. Il dit, c'est pas mieux. Alors j'ai dit, mais Jean-Pierre, ça, moi, ça ne me coûte rien. Il me dit, mais c'est pas une histoire de valeur.
C'est fait partie du rêve. Je sais, quand on dépassait des fois le peloton avec ta voiture, bah déjà là, il faut savoir rouler, quoi. C'est pas rien, quoi, de dépasser. Tu vois, quand les cyclistes se mettent sur les côtés pour nous laisser passer, c'est quand même pas rien. Ou quand on descendait l'école dans les Pyrénées et que la voiture de Christian Prudhomme disait, allez, il faut avancer, descendez vite. Et puis, moi, je me souviens, j'ai aussi fait des tours de France sur la moto, je me souviens comment c'était. C'était énorme, quoi.
Exactement. Et quelqu'un qu'on pourrait penser que, effectivement, comme Jean-Pierre, qui a tout vécu, qui est champion d'Europe, enfin le seul et unique pour l'instant avec Bernard Tapie, avec l'OM, on se dit qu'ils ont tout vu. Ben non, quand ils font une course sur une étape du Tour de France, pour eux, c'est
bon. Denis, on a beaucoup papoté, alors je voulais te dire un truc pour conclure. Reste toi-même, reste comme tu es et ne sois pas trop sage. Continue ton bout de chemin comme ça. En tout cas, on a passé un super moment ici à la radio. Merci pour ton invitation, merci d'être mon invité. À très bientôt, mon Denis.
Ben merci à toi et puis merci l'ingénieur du son.
À Fabien,
qui vraiment est extraordinaire.
C'est fini.
Extraordinaire, voilà.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà.